Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Hello, hi, good afternoon, ladies and gentlemen.
Chelsea Blue, that is the colour, kings of Europe.
Et oui, l'Europe parle anglais désormais, n'est-ce pas Bruno Constant? Bonjour.
Qu'est-ce qu'on dit alors? Good afternoon.
Good afternoon.
Oh, good evening.
How are you?
I'm good, I'm great. Comme Chelsea. J'ai pas fait la fête avec eux, mais je suis heureux pour eux.
Ah, il y a quelques cernes quand même sur votre visage.
Heureusement qu'on n'est pas filmé. Hein. Comme les Anglais.
Ça, c'est Roland Garrosso,
c'est normal.
Oui, à partir de 19 degrés, on prend le soleil quand, on est anglais. L'Europe parle anglais. Donc, le bleu est sa couleur la plus chaude. Le bleu roi de Chelsea, bien sûr. Chelsea, roi du vieux continent. Libéré de la place dans l'armoire, passé un coup de chiffon pour enlever la poussière sur l'étagère. Les Blues ont une deuxième coupe aux grandes oreilles à vous faire admirer en vitrine. Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions devant Manchester City. C'était samedi à Porto. Chelsea, pour que vous compreniez bien, c'est un club qu'on qualifie souvent de nouveau riche, dont le stade est situé dans un quartier huppé de l'ouest d'une grande capitale européenne. Son entraîneur se nomme Thomas Tuchel, son défenseur central se nomme Thiago Silva. Vous voyez où je veux en venir, Eric Rabessandratana?
Alors là, ça me dit absolument rien. Bonjour à tous.
Bonjour Eric. Traduction, hein, que tout le monde comprenne. Chelsea, c'est le PSG, mais en mieux, c'est l'ancien PSG même, et en mieux.
C'est ça.
C'est aussi un peu de qualité allemande dans une équipe anglaise. De Tuchel, le coach, à Havertz, le buteur, en passant par Rudiger et Timo Werner, qui ont animé la rencontre. À leur manière, ça doit vous faire plaisir. David Lortolari, bonjour David.
Guten Abend, salut Hugo, salut à tous.
Non, ça c'était l'année dernière l'allemand.
Mais quand même.
Première langue, mon cher David. Faut vous mettre à la page. Deux champions à mes côtés pour préparer cette émission aujourd'hui. David Finzel et Laurent Salerno. Radio Foot, c'est parti.
We know blue is the colour. But is it City Blue or Chelsea Blue? In Porto. First time from Chilwell into Mount. Werner's on the move. So too it's Havertz right the way down the middle. Havertz! 1-0 Chelsea! Kai Havertz! It is Chelsea blue. That is the colour. For just the second time in their history, they are champions of Europe. And Thomas Tuchel, who halfway through the season waltzed down the King's Road, has led them to Kings of Europe.
Promis, on parlera tout à l'heure de Thomas Tuchel, tout le football qu'ils aiment. Il vient de là, il vient des Blues, dans les rues de Porto, ville haute de la finale, dans les rues de Londres, leur ville tout court. Les fans de Chelsea fêtent le succès en Ligue des Champions de leur club. Deuxième sacre dans la plus belle des compétitions, la sixième victoire dans une Coupe d'Europe pour Chelsea. Les Blues ne sont plus des Bleus sur le vieux continent. Les Bleus, ils les ont davantage réservés à leurs adversaires. Pauvre Kevin De Bruyne, le meneur de jeu de Manchester City, sonné, le mot est faible, après une obstruction de Rudiger, le défenseur de Chelsea à l'heure de jeu. Kevin De Bruyne obligé de sortir. Alors une mauvaise image, une image qu'on a regretté voir dans une belle finale, malgré tout, une rencontre très accrochée, est-ce que tout le monde est d'accord, par rapport notamment au cru des dernières années, on a assisté à un beau duel.
On a toujours un peu une inquiétude quand c'est une finale 100% du même pays.
2019, ça... Tottenham-Liverpool,
100%
voilà,
anglais, ça n'a pas été grandiose. 2003, la Juve Milan, c'était pas terrible non plus.
2013, avec le Bayern Dortmund, c'était bien.
C'était un peu mieux, ouais, effectivement. Mais du coup, on ne sait pas trop si c'est de la Coupe d'Europe ou une rivalité de championnat, et du coup, on est souvent déçu. Et là, franchement, surtout la première période, la deuxième un peu moins, mais la première période était enjouée, ça allait d'un but à l'autre, c'était assez ouvert, offensif, agressif. Une fois que Chelsea a marqué son but juste avant la pause, c'était un peu plus compliqué parce qu'on a senti Manchester City impuissant, qui a jamais trouvé les idées, et notamment, on viendra peut-être, mais sur Pep Guardiola et ses choix. Mais ça a été une belle finale et puis surtout un beau vainqueur parce que Chelsea revient de très loin. Il y a encore 6 mois, ils étaient un peu dans la panade. C'est 9e du championnat d'Angleterre. Ils changeaient d'entraîneur. Un autre arrivait. Il y avait beaucoup de questionnements sur cette équipe. Et ils ont quand même un parcours assez exceptionnel. Ils éliminent l'Atlético de Diego Simeone, leader et donc futur champion de d'Espagne, le Real Madrid de Zidane, qui est un spécialiste de la Ligue des Champions, et puis Manchester City de Pep Guardiola, que beaucoup voyaient comme
finalement,
la meilleure équipe du monde.
Leur confrontation la plus compliquée, ça a été bizarrement contre Porto en quart de finale, ouais. Où ils perdent le match retour.
Ils étaient favoris.
Ils étaient largement favoris, c'est peut-être là que ça a été le plus accroché. Sur cette finale, David Lortolari, pas forcément une orgie d'occasion, un seul but, mais... un duel, et pas au mauvais sens du terme. Alors, oui, cette image de De Bruyne complètement assommé sur la pelouse qui sort, ça c'est vraiment pas quelque chose qu'on avait envie de voir, mais à part ça, un vrai duel dans le bon sens du terme.
Complètement, prenant, avec quand même, alors, opposition de style pas forcément totale, hein, on peut revenir peut-être sur les philosophies, les travaux, les mises en place des entraîneurs, mais quand même deux équipes avec deux projets de jeu vraiment, vraiment différents, au départ et aussi au fil du match, où ça s'est accentué peut-être en fonction du rapport de force. Non, une finale vraiment prenante. J'ai été passionné, moi, par les mouvements collectifs et aussi par les individualités, parce qu'elles étaient nombreuses, pas seulement côté Manchester City d'ailleurs. Il y avait aussi des individualités intéressantes côté de Chelsea. Et Bruno nous avait sensibilisé dans le courant de la saison. Je vais en citer simplement un sur Mason Mount. Voilà un joueur très intéressant côté de Chelsea, par exemple, qui fait que peut-être que faire de l'un un grand favori et de l'autre pas un favori du tout était peut-être un peu excessif.
Alors je vais vous annoncer quelque chose qui va vous décevoir, Mason Mount, il n'en sera pas tellement question dans cette émission, mais on va dérouler quelques cas individuels. On va en parler, oui forcément, vous avez vos marottes, mon cher Bruno Constant. Eric Rabessandratana, si je vous dis que c'est la meilleure équipe de la Ligue des Champions qui a remporté la compétition, mais ce n'est pas la meilleure équipe d'Europe qui a remporté la Ligue des Champions. Ça vous paraît clair ? Et est-ce que surtout vous êtes d'accord avec ce constat ?
Non, mais surtout ce qui a été impressionnant sur ce Chelsea, alors le Chelsea nouveau avec Tuchel, c'est le côté changement tactique ou cette domination où on voit vraiment la maîtrise. C'est là où je disais tout à l'heure en off que on a senti que Guardiola tactiquement il avait été mangé par Tuchel. Et c'est un peu la surprise, c'est-à-dire que est-ce que ce n'est plus Maître Guardiola en termes tactiques, ou est-ce que c'est simplement parce que Tuchel a su trouver la solution ? Il y a certainement un petit peu des deux, mais ce qui ressort surtout sur par exemple, c'est pareil pour le Real, c'est-à-dire que le Real tactiquement est Chelsea contre le Real aussi. Alors peut-être encore plus contre le Real parce que finalement le Real n'a pas vraiment existé dans l'opposition, mais j'ai trouvé que Tuchel avait su mettre en place un schéma qui a bouleversé un petit peu toute la deuxième partie de saison de Chelsea.
Trois victoires. Vous pouvez dire que Chelsea n'est pas la meilleure.
Non, mais alors justement, je vais préciser, c'était une provocation évidemment, trois matchs, c'est ça, Tuchel et Guardiola dans cette deuxième partie de saison. Trois victoires pour Tuchel, mais le champion d'Angleterre. C'est bien le Manchester City de Guardiola, c'est Tuchel, quatrième seulement de Première Ligue, battu en finale de Cup, et pourtant Ligue des Champions imbattable. Comment vous expliquez un peu ce décalage ?
Parce que c'est deux compétitions très différentes. Le championnat, et d'ailleurs on dit de plus en plus en Angleterre ces derniers jours, on va dire 24 heures, que Guardiola est peut-être plutôt un entraîneur de championnat que de coupe. Ah oui. Et ça se confirme de plus en plus dans ces différents passages depuis le FC Barcelone. Mais sur la Première Ligue, il n'y a rien à dire. Manchester City, sur les 4 dernières années, c'est la meilleure équipe d'Angleterre. Et Chelsea, c'est presque devenu une équipe de coupe, de trophée, qui a cette capacité à réagir, même quand ça ne va pas une année. Et ça, c'est la force de Chelsea, c'est la force de Roman Abramovich. Il transforme des saisons moroses en succès quasiment de lendemain assez extraordinaire. Ils sont capables de virer un entraîneur, d'en choisir un autre. Et d'être la première fois qu'ils gagnent la Ligue des Champions en 2012, ils ont viré l'entraîneur 3 mois avant la finale.
L'entraîneur s'appelait André Villas-Boas, et c'est Di Matteo qui a remporté
Et Di Matteo qui est champion d'Europe, qui a très peu d'expérience. Donc ils ont cette force-là. Et moi je répète, sur ce parcours, pour moi ils ont un parcours de champion d'Europe. L'Atlético, le Real, Manchester City, c'est, à part PSG et Bayern, c'est ce qui se fait de mieux en Europe.
Non mais c'est ça, c'est la meilleure équipe de la Ligue des Champions sans être... sur l'ensemble de la saison, la meilleure équipe d'Europe. On aurait plutôt eu tendance samedi matin à donner cette couronne, à attribuer cette couronne-là à Manchester City.
C'est surtout que quand on regarde le parcours en championnat de Chelsea sur la deuxième partie de saison, ils sont d'une régularité incroyable. Ils ont rien volé non plus. C'est-à-dire que à part les derniers matchs avant cette finale de Ligue des Champions où là ils craquent un peu, mais sinon tout le reste, il y a eu une grande domination et une grande maîtrise de la part de Chelsea.
David Lortolari, Solari.
Il y a deux Chelsea, Hugo. Le Chelsea qui est 8e en janvier, quand on bascule en 2021. Et puis le Chelsea avec Tuchel. Victoire sans prendre de but contre Liverpool, si je me souviens bien. Victoire sans prendre de but aussi contre le Manchester City de Guardiola. Il y a eu d'autres gros poissons qui ont été battus aussi comme ça de façon clinique. Il y a eu aussi, bien sûr, quelques rechutes. Je crois un 2-5 contre West Bromwich, quelque chose comme ça.
C'était après une longue série de...
La fin de saison, championnat et même... Parce qu'effectivement, ils auraient pu tout perdre. Ils ont perdu la FA Cup. Ils ont failli perdre la 4e place. Effectivement, ils s'inclinent la dernière journée. C'était très chaud.
C'est vrai.
Mais ce que fait Tuchel, et là, c'est ce que dit David, c'est important. Tuchel a métamorphosé cette équipe.
C'est ça.
Il a quand même battu Simeone deux fois, Ancelotti, Mourinho, Klopp, Guardiola. Il l'a battu trois fois.
Il a dominé les plus grands noms du coaching, les plus grands entraîneurs actuels.
Oui. Donc pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe. C'est le meilleur entraîneur d'Europe, en tout cas, sur cette compétition.
Alors, on va faire un peu d'histoire. Deux Ligues des Champions pour Chelsea, 2012 et 2021. Deux Ligue Europa, on est d'accord. Ouais. 2013, là aussi, ils avaient changé d'entraîneur en cours de saison. Et puis,
c'est Benitez, 2019,
avec Sarri, là, qui lui avait fait toute la saison. Et puis, deux Coupes des Coupes. Alors, j'ai celle de 98, je ne me souviens pas forcément de la première, mais j'ai aussi une super coupe.
70, dans les années 70, 69, 70, quelque chose comme ça.
En tout cas, ça nous fait 6, voire 7 trophées européens pour Chelsea. Donc,
les ça Blues... Ça fait 4 lors des 10 dernières années. Hein,
et 4 lors des 10 dernières années. Hein. Et on rappelle que ce club, il a été transfiguré par l'arrivée de l'investisseur russe Roman Abramovich en 2003.
Mais c'est important de rappeler que Chelsea a gagné des Coupes d'Europe avant Abramovich. Et celle de 98 notamment. Parfois, on a un peu tendance dans l'esprit des gens que Chelsea n'existe que depuis l'arrivée de Roman Abramovich. Ce qui est faux, c'est un club historique qui a une énorme histoire, passé parfois douloureux avec le hooliganisme, mais c'est un club qui s'est construit dans le temps aussi.
Mais le PSG aussi a gagné une Coupe d'Europe avant l'arrivée des Qataris.
Absolument, monsieur.
C'est un autre sujet. Ceci dit, ça, c'est un petit teasing. Voilà, j'appâte un petit peu le chaland pour la suite de l'émission. Je le disais tout à l'heure, les Blues ne sont plus des Bleus sur le vieux continent, mais des Bleus ont participé à la victoire des Blues en Ligue des Champions. Qui est le meilleur buteur sur la scène européenne, le meilleur buteur de Chelsea cette saison? Meilleur buteur en Ligue des Champions, Olivier Giroud.
Ah oui, c'est
6 réalisations. Il n'est même pas entré en jeu samedi, l'avant-centre français. mais voilà, 6 buts en Ligue des Champions pour lui cette saison, dont 4 dans un seul et même match en phase de groupe contre Séville. Mais aussi un but fantastique
contre
l'Atlético en 8e. Donc il a participé clairement au parcours des Blues. On a aussi Kurt Zouma. Champion d'Europe sans sortir du banc, samedi soir à Porto.
Une des victimes de l'arrivée de Thomas Tuchel,
qui a disparu. Le réveil de Rudiger.
Mais 8-5 apparitions en Ligue des Champions, donc c'est. On leur attribue sans aucune ambiguïté cette couronne européenne.
Mais, et puis c'est surtout que ça renvoie aussi à Frank Lampard, parce que Chelsea,
il n'y a pas de
victoire en Ligue des Champions cette saison sans ce qu'a fait Lampard en phase de poule où ils sont sortis. Et effectivement, Zouma a joué sa part, Giroud a joué sa part, c'est important de le rappeler.
Mais le joueur que tout le monde a admiré samedi soir au Portugal, en Angleterre, en France, en Afrique, vous savez qui c'est.
N'Golo Kanté. N'Golo Kanté.
Kanté is fit as well.
Que ce soit en demi-finale, en finale, vraiment bravo, bravo pour tous ces efforts. Je pense que Chelsea a eu la chance de l'avoir.
It's Kanté is in there.
Il est incroyable ce mec. Il est incroyable. Il court de partout, il fait des différences, il comble des brèches. Il récupère des ballons. Et avec lui, comme on disait à l'époque, on a l'impression d'être 12 sur le terrain.
N'Golo Kanté, il est petit, mais il a arrêté Messi. Il est petit, aujourd'hui, il a arrêté Kevin.
Les supporters sénégalais de Chelsea ont chanté son nom. Le Camerounais Jérémy Njitap, ancien joueur de Chelsea, ou encore son coéquipier actuel, Olivier Giroud, qui était interrogé par RMC, ont chanté ses louanges. N'Golo Kanté a rayonné, le mot est faible, dans cette finale de Ligue des Champions.
C'est incroyable, c'est le résultat de beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés durant la saison. Au final, c'est le travail de tout un groupe et c'est de la fierté, de la joie. Principal, c'est ce qu'on a fait. On s'est battu pour se qualifier en finale et la victoire aujourd'hui, on a souffert, on s'est battu jusqu'à la fin et on a la récompense de la victoire et on savoure, c'est tout. C'est l'arrivée du nouveau coach, un changement de tactique, beaucoup d'efforts tous ensemble. On a gagné beaucoup de matchs, on en a perdu d'autres et aujourd'hui, c'est l'accomplissement de toute une saison.
Un Blues sans fausse note, que ce soit sur le terrain ou en interview d'après-match, N'Golo Kanté, man of the match, joueur du match, homme du match, comme on dit en français, en demi-aller contre le Real, homme du match en demi-retour contre le Real, homme du match en finale contre Manchester City. What else, comme on dit, David Lortolari?
Oui.
Un trophée en de forme circulaire, plaqué or, à la fin de l'année 2021.
Mais en tout cas, c'est un homme discret, et là, on l'a vu. Là, il a rayonné. Ouais. Et quand on le voyait se lancer dans des mouvements offensifs, en se disant qu'il remettait tout seul d'aplomb une équipe qui peut, par moment pouvait peut-être subir. Il a récupéré quelques ballons un peu chauds, des tacles parfois un peu compliqués, mais toujours juste. J'ai pas souvenir sur ce match d'un déchet dans les transmissions vers l'avant aussi. Parfois il a porté un peu le ballon et quand il y avait de l'espace, il était énergique, il était très très fort, et c'est forcément sans débat l'homme de cette rencontre, du genre de joueur que vous avez envie de suivre quand vous êtes sur le terrain, j'imagine. Et puis moi, j'avais souvenir, ça remonte quelques années en arrière quand même, mais il y avait un joueur qui m'avait beaucoup impressionné dans son profil, dans son style, dans sa technique aussi, c'était Patrick Vieira. Là, on a quelqu'un qui n'a pas du tout le même profil, pas forcément les mêmes capacités techniques, globales, mais c'est pour moi aussi marquant de voir N'Golo Kanté sur un terrain dans un match comme ça que Patrick Vieira l'avait été dans ses meilleurs matchs aussi.
Quel compliment, quelle comparaison flatteuse, Eric Rabessandratana.
Non, mais c'est un extraterrestre en fait, parce qu'il est capable de faire des choses incroyables. Il est d'une générosité. Je pense que c'est ça en fait. Il est généreux et en fait c'est naturel. C'est pas quelque chose qui c'est pas une obligation. Il le fait parce que c'est dans son ADN et que il le fait voilà généreusement comme quelqu'un comme qui a envie de donner pour son équipe, qui a envie de tout donner pour
son
équipe.
C'est comme ça qu'il vit le football.
Mais bien sûr,
dans la négation, dans le collectif.
Et on l'entend dans son interview. C'est-à-dire que d'habitude il est un peu effacé, un peu discret, et là en fait il a envie de donner parce que c'est comme s'il avait atteint l'objectif et il vous donne plein d'amour, plein de sourires, plein de tout ce que vous voulez. Et en fait c'est ce qu'on voit sur le terrain. Voilà, il a envie de donner son, et en plus, comme le disait David, dans les stats et dans les machins, c'est pas genre il donne et puis il a du déchet. Il donne et il a pas de déchet, donc ouais. C'est quand même extraordinaire.
Bruno Constant, il y a eu une évolution de N'Golo Kanté qui avait déjà été un artisan du titre magique de Leicester en 2016, meilleur joueur de la saison après un autre titre avec Chelsea lors de sa première année en 2017. Et puis derrière, il y a eu une évolution. Maurizio Sarri avait voulu le faire évoluer. Il y a eu aussi des blessures. Oui. Et là, il y a quelque chose comme une apothéose dans le jeu de N'Golo Kanté.
Disons qu'il est en train de prendre une nouvelle dimension. Et je pense que c'est plus nous, le regard des gens, des observateurs, qui a changé que lui qui est vraiment changé. Parce que si je vous mettais un lien de ses meilleures actions avec Leicester, vous verriez qu'en fait, techniquement, il est déjà très juste.
Oui. Oh ouais,
il joue vers l'avant.
C'est sûr.
Il a des conduites de balle qui cassent les lignes. Il fait quasiment exactement la même chose. Sauf que là, il ne le fait plus avec Leicester. Il le fait avec Chelsea, qui gagne la Ligue des Champions. Forcément, on est obligé d'être ébahi par ce qu'il fait. Il y a une stat qui résume ce bonhomme, et tu parles de générosité. C'était le joueur le plus petit sur le terrain, samedi soir. C'est le joueur qui a remporté le plus de duels aériens sur le terrain. Pour moi, ça en dit long sur ce garçon. C'est qu'il est capable de déplacer des montagnes et il est juste extraordinaire. Il a un parcours de dingue. 2012, National, 2013, D2, ouais. 2014, la Ligue 1, 2015, il arrive à Leicester, 2016, il est champion d'Angleterre, 2017, champion d'Angleterre, la Coupe du Monde en 2018,
il a tout gagné,
de l'Euro avant,
à part l'Euro.
Il a tout gagné à part l'Euro. Et pour moi, il y avait la petite blague sur le Ballon d'Or. Moi, depuis samedi, je milite pour qu'il soit au moins considéré dans les trois pour le Ballon d'Or. On a énuméré ces titres de trophées honorifiques, de meilleur joueur.
Ouais, bien sûr.
Mais ce n'est pas si honorifique que ça, parce que meilleur joueur d'une demi-finale et demi-finale retour et finale Ligue des Champions, ça veut dire qu'on est meilleur.
Moi, j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé.
Et on est dans, on est
dans, je suis pas sûr,
on a dû avoir peut-être Messi ou Ronaldo.
On est après l'ère.
Ça situe déjà le niveau de Kanté.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est après l'ère, donc des extraterrestres qui marquent énormément de buts, qui ont des statistiques extraordinaires.
C'est un extraterrestre, en son sens, il y a Messi, Ronaldo, les buteurs, les grands joueurs. Et au milieu de terrain, citez-moi meilleur
mais
milieu
c'est
de terrain.
C'est un joueur énorme par sa simplicité. Je veux dire, pas forcément le caractère, mais le jeu
son utilisation
est quelque
aussi.
Chose de...
Son utilisation a changé. C'est-à-dire qu'avant, on l'utilisait plus en numéro 6 pour récupérer les ballons et faire la navette sur la largeur du terrain. Et là, finalement, on se rend compte que dans la verticalité, pour aller vers le but et faire ce même travail en largeur et vers le but, il est capable de le faire. Et ça, c'est avoir un joueur comme ça, c'est extraordinaire dans une équipe. Vous avez là, il est utilisé un petit peu plus haut. Ça veut dire qu'il est capable de mettre la pression sur les joueurs adverses. Et comme en plus il a une santé incroyable, c'est un vrai poison pour toutes les équipes en face. Il récupère les ballons, il joue juste quand il récupère les ballons. Mmh. Et en plus, il gagne les duels aériens.
Il y a quelque chose qu'on souligne beaucoup, c'est un joueur défensif quelque part, parce qu'il récupère sa capacité à récupérer les ballons, à tacler. D'ailleurs, il tacle très peu en fait. Hein. Ouais, regardez, il tacle très peu, dans ce qui est déjà une preuve d'intelligence. Mais en fait, d'avoir ce sens de l'anticipation, du danger, de savoir où va aller le joueur adverse ou le ballon, c'est une preuve d'intelligence extraordinaire. Et c'est, pour moi, c'est la plus grande qualité de N'Golo Kanté, c'est son intelligence de jeu. C'est un milieu défensif, mais il était hyper intelligent, c'est impressionnant.
Plus intelligent que David Ortolari.
C'est impossible.
Pas tout le temps. Pas tout le temps.
Je vous ai coupé le sifflet, mon non, cher David.
On citait, ça me faisait penser dans le côté marquant à Patrick Vieira et dans la description que fait Bruno aussi à l'instant, je repense à Edgar Davids aussi, qui avait pas le même profil non plus, mais encore
plus accrocheur peut-être.
Peut-être, mais parmi les images marquantes de cette finale samedi soir, il y a quand même beaucoup de gestes de N'Golo Kanté. Certains effectivement défensifs qui sont décisifs parce qu'autour de lui il y a des joueurs qui à un moment du match forcément aussi sous le jeu de City côté de Chelsea était un peu Jorginho par moment moins visible que N'Golo Kanté quoi. Lui a été énergique tout le temps.
Il y a quelques années, N'Golo Kanté était en Normandie, à Caen, loin, et vous le rappeliez Bruno, de s'imaginer qu'il allait conquérir l'Angleterre, voire l'Europe. Un jour, une autre ville normande a vu passer deux protagonistes de la finale de Porto samedi. Il s'agit du Havre, qui a vu passer l'Algérien Riyad Mahrez, alors finaliste malheureux du côté de City ce samedi avant-hier. Pas très inspiré, le héros de la demi-finale contre le PSG, là il a été un peu plus effacé à l'image des autres joueurs de City.
Il est surtout tombé sur un rock qui s'appelle Ben Chilwell, qui rample arrière-gauche doublure on va dire en équipe nationale, qui à mon avis va peut-être grignoter la place de titulaire, qui a été extraordinaire face à lui surtout. Et un peu à l'image de cette équipe de Chelsea qui tactiquement a été tellement plus forte que Manchester City, City était sans solution, ils étaient impuissants et ça renvoie à Guardiola qui est un peu trop réfléchi encore une fois à préparer son match et qui nous a sorti du chapeau une équipe sans sentinelle. Et qui n'a pas marché, parce que Gundogan n'est pas une sentinelle. Et Gundogan, cette saison, c'est un joueur qui se projette et qui est bon quand il arrive dans le box adverse, dans la surface adverse. Et là, Guardiola, pardon, c'est encore trompé, malheureusement.
Court d'idées, Guardiola, j'ai l'impression.
Trop d'idées, sais pas. C'est un des deux.
Je reviens à mon camembert, à ma Normandie, pour vous parler d'un autre Havre. Oui, on voyage avec cette émission. Je voulais vous parler d'un autre Havre qui était, en tout cas, un autre Normand qui était sur le terrain samedi, un certain Edouard Mendy, le portier sénégalais de Chelsea, coéquipier donc de N'Golo Kanté, deuxième sénégalais vainqueur de la Ligue des Champions après Sadio Mané en 2019 avec Liverpool. Et là, vous parlez de trajectoire de dingue pour N'Golo Kanté. Que dire de celle d'Edouard Mendy, le chômage il y a quelques années à peine, et puis une ascension qui pourrait inspirer quelques scénaristes à Hollywood. Reims, puis l'année d'après Rennes, et puis Chelsea en début de saison, tout ça pour grimper sur le toit de l'Europe. On l'écoute, Edouard Mendy.
C'est assez exceptionnel. C'est vrai que j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Je me suis donné les moyens pour vivre ce genre d'émotion, de vivre ce genre de match. Et aujourd'hui, je prends ça comme une récompense avec toute ma famille, tous ceux qui ont souffert avec moi. Et aujourd'hui, pour ma première année, je suis fier de remporter ce trophée qui est le plus gros trophée continental. Pour un footballeur, la Ligue des Champions en club, c'est le summum. Quand on sait que le club l'a gagné qu'une seule fois, le club a mis les moyens pour atteindre ses ambitions et dès la première année de ce projet, d'atteindre la finale et de la remporter, c'est vraiment très positif pour les années à venir.
Edouard Mendy, le portier de Chelsea, à l'origine même du seul but de la rencontre, le but de Kai Havertz à la 42e minute, puisque ça part d'une passe de Mendy, puis après ça va très vite avec notamment le chef-d'œuvre de passe décisive signé Mason Mount, votre chouchou.
Vous avez dit qu'on
Bruno Constant, on est obligé d'en parler un petit peu. On y viendra encore un peu plus loin à Mason Mount, Kai Havertz. Ne vous inquiétez pas. Simplement, on reste un petit peu sur Edouard Mendy, célébré au Sénégal et partout en Afrique. Pour parler de lui, vous êtes là, évidemment, messieurs, nous avons également appelé un certain Joseph-Antoine Bell. Alors, un gardien africain entré dans la légende il y a quelques années déjà, ce n'est pas lui faire offense que de dire cela, parle d'un gardien africain entré dans la légende il y a moins de 48 heures, ça donne ça.
D'abord, il a réalisé une bonne saison. Il a fait un bond en avant depuis, je crois, deux ans. si mes souvenirs sont bons, à la CAN, Hugo, il s'était blessé.
Oui.
Mais c'est un bon gardien de but qui a bien progressé et qui a prouvé sur le terrain toutes les améliorations qu'il a apportées à son jeu. Il n'a rien eu à faire en finale. Ce n'est pas sa faute. C'est exactement ça le rôle du gardien. C'est qu'il ne sait jamais quand est-ce qu'il y aura quelque chose à faire. Et c'est pour cela qu'il s'entraîne très dur pour être prêt. Et je suis sûr qu'il était prêt à faire de grandes choses. Mais bon, si on ne lui en a pas donné la possibilité, ça n'enlève rien du tout à la victoire et à sa contribution à la victoire, puisque vous savez, une victoire en finale ne commence pas par la finale. Il faut avoir le mérite d'arriver en finale. Donc, vous avez fait des choses avant d'arriver en finale, et lui, il les a faites.
Oui, il a été très bon, notamment en demi-finale contre le Real Madrid. Plus globalement, dans la saison, le nombre de matchs sans encaisser de but par Chelsea est énorme, avec Mendy dans les cages. Il y est forcément pour quelque chose, ne serait-ce que au-delà des arrêts, par la sérénité qu'il doit apporter à ses défenseurs.
Le foot en général, mais le gardien de but en particulier, c'est un peu confiance, mais confiance mutuelle, assurance mutuelle. C'est-à-dire que vous apportez quelque chose aux autres et ils vous le rendent bien. Ils ont des comportements qui vous rassurent, comme vous avez un comportement qui les rassure. Et puis, de toute façon, le gardien de but, pour moi, est une assurance sous risque dont on ne doit pas souhaiter s'en servir souvent. Personne ne souhaite avoir un accident pour que l'assurance joue, mais il la prend parce qu'il faut être couvert. Et donc, le grand gardien de but, le bon gardien de but, c'est exactement ça.
Est-ce qu'il fait d'ores et déjà partie de la grande histoire des gardiens de but africains, Joseph Antoine Bell, Edouard Mendy, qu'on ne connaissait pas vraiment il y a quelques saisons à peine et qui d'un coup est au plus haut niveau, fait partie des rares gardiens africains à avoir gagné la Ligue des Champions. Malheureusement, il lui manque peut-être des grandes performances en Coupe d'Afrique des Nations.
Il va y arriver forcément, mais vous savez, le problème de tous les joueurs en général, du gardien de but en particulier, c'est un problème d'opportunité. Là, il a été dans un club qui jouait la Ligue des Champions et ses performances ont permis d'arriver en finale et ses performances ont permis de la gagner, donc il a gagné. Avec le Sénégal, ça viendra certainement, mais avec le Sénégal, il a eu des performances qui ont permis au Sénégal d'arriver en finale de la CAN. Donc, on ne peut pas considérer que ce soit un moins parce qu'il n'a pas gagné ceci ou cela. Il gagne ce qu'il a l'opportunité de gagner. À mon avis, il faut avoir un autre regard. L'année dernière, on a eu un Sénégalais qui est devenu champion d'Europe, un attaquant, Sadio Mané.
En 2019, c'était pas l'année dernière, c'était en 2019, mais je comprends l'idée.
Voilà, c'était l'année d'avant. Là, cette fois, il y a encore un Sénégalais qui est vainqueur de la Ligue des Champions. Donc moi, je pense qu'on doit regarder simplement ce garçon comme ayant réalisé une grande performance et ne pas essayer de voir où est-ce qu'il y aurait un moins, où est-ce qu'il y a ceci. Et puis, de toute manière, je suis sûr qu'Edouard Mendy va continuer de progresser. Aujourd'hui, Edouard Mendy fait partie de ce qu'on n'oubliera pas.
Radio Foot avec Eric Rabesson Dratana, David Lortolari, Bruno Constant, un peu de Joseph Antoine Bell. Vous avez bu les paroles de l'ancien portier des Lions Indomptables qui a dit des choses essentielles, vraies, qui a rappelé les vérités à propos d'Edouard Mendy. C'était ça votre avis, Bruno
Constant. Une très très importante qui résume tout, les gardiens c'est une histoire d'opportunité.
Oui, un seul poste.
Il y a un seul poste et surtout c'est un espèce de jeu de chaise musicale qui se déplace très rarement parce qu'une fois qu'on a un grand gardien, ouais. Je prends l'exemple du Bayern avec Neuer, ça bouge très rarement, Barcelone avec Ter Stegen. Et je faisais la référence avec Hugo Lloris par exemple, qui est un gardien pour moi un des meilleurs gardiens du monde, sans doute dans les trois meilleurs, mais qui a atterri à Tottenham alors que ce gardien devrait être à Manchester United, au Real ou au Barça. C'est comme ça. Et Edouard Mendy a profité effectivement d'une opportunité. Chelsea se trompe très rarement sur les gardiens. L'un des plus grands succès évidemment, alors il y a eu Bonetti dans les années 60-70, Peter Cech qui était un des plus grands gardiens à Chelsea, qui a gagné la Ligue des Champions en 2012 avec Chelsea, et c'est aussi la cellule entraîneur des gardiens, développement des gardiens, recrutement, avec Christophe Lolichon à
sa
tête,
de France aussi,
un ancien Rennais qui avait récupéré et ramené Peter Cech à Chelsea et qui s'est rarement trompé sur les gardiens. La seule fois où Chelsea s'est trompé d'ailleurs, où Christophe Lolichon n'avait pas donné son avis, c'était pour Kepa. Ils avaient cherché ce gardien espagnol, 85 millions d'euros. Ils se sont totalement plantés. Il n'est pas fait pour la Première Ligue. Et c'est parce que Kepa s'est planté que Chelsea a été chercher Edouard Mendy, un gardien plus grand, plus fait pour la Première Ligue. Et on parlait du prix, quoi, 25 millions d'euros. C'est une aubaine, Edouard Mendy, pour 25 millions d'euros. Quel cadeau.
Et quelle trajectoire pour Edouard Mendy, David Lortolari, alors qui n'est pas exactement un gardien à l'allemande, ce n'est pas le plus beau jeu au pied du circuit, peut-être un gardien un peu, je ne vais pas dire l'ancienne, mais plus académique, mais quel brillant académisme en ce qui le concerne.
Alors, je ne sais pas si c'est cette trajectoire quand même assez stellaire qui fait que sur cette finale, je l'ai trouvé, moi, d'une fraîcheur incroyable et d'une sérénité dingue.
Pas de vraie parade, mais rien de
présence.
Oui, mais
rien à dire, rien à redire.
Beaucoup de maîtrise de caractère dans ces interventions.
Oui, et puis une forme de, ça dégage une sérénité. Je crois que le mot était juste sur cette finale. Alors c'est peut-être aussi parce que devant il y a des monstres. Hein. Oui, un Thiago Silva bien placé, c'est fort.
Rudiger.
Et tous les joueurs qui font le travail défensif, bien sûr. Peut-être que ça fonctionne aussi très intimement ensemble, Hugo, les phases défensives où on souffre et le gardien qui va bien pour... Mais moi, c'est ça qui m'a impressionné encore une fois. Cette fraîcheur, cette sérénité sur une finale, c'est décisif.
Allez, un peu de fair play dans cette émission. On a beaucoup parlé des vainqueurs, mais on est fair play en Angleterre. C'est une valeur très, très importante. On va parler des perdants.
Ça veut dire qu'on ne parle pas de Mason Mount?
Mais si,
une passe décisive absolument magnifique.
19 minutes, mais tant que vous me coupez la parole, on perd du temps et Mason Mount perd une opportunité de briller dans cette émission. Alors on va parler donc des perdants, le bleu de leur maillot est clair et leur mine était sombre samedi au coup de sifflet final. Les joueurs de Manchester City ont perdu la première finale de Ligue des Champions de l'histoire de leur club. Ils sont tombés de haut, est-ce la faute à Guardiola? Vous avez un petit peu répondu à ça tout à l'heure, parmi ces audaces tactiques dont il est friand, ne pas jouer avec un numéro 6. Le seul numéro 6, c'était l'allemand Gundogan, qui est
un relayeur,
et puis le meilleur buteur du club de Manchester City cette saison. Donc un joueur à l'apport offensif plus évident que l'apport l'apport défensif, et pas de numéro 9, ça on était habitué en Ligue des Champions, et on a quand même l'impression que
avec Guardiola
ça
aussi
a été un petit peu stérile cette animation.
Le problème de Guardiola, et c'est ce qu'on dit de plus en plus, c'est qu'il réfléchit trop, il pense trop son football, il est sans arrêt à la recherche de nouvelles idées, d'approches de jeu. Et on dit la même chose après le match d'élimination contre Lyon l'été dernier en Ligue des Champions au Final 8, où il nous avait sorti une défense à 3 de nulle part, alors qu'il ne jouait jamais qu'une défense à 3. Il s'était planté face à Lyon. Et là, il nous sort un système sans sentinelle, alors que Rodri fait une très bonne saison, alors que Fernandinho, qui avait joué face au PSG, avait été plutôt solide. Et là, il sort ce système, et ce système qui ne marche pas. Mais en même temps, on ne sait pas ce qui serait arrivé s'il avait mis une sentinelle, parce que contre Chelsea, il a perdu 3 fois cette saison. La première fois, il a mis une sentinelle, ça n'a pas marché. La deuxième fois, il a mis 2 sentinelles, ça n'a pas marché. La troisième fois, il ne met aucune sentinelle, ça ne marche pas non plus. Donc on ne sait pas
au moins,
c'est...
il essaye des choses.
On ne sait pas si c'est la faute de Guardiola. Mais effectivement, en tout cas, c'est lui qui a le plus compté dans cette finale.
Le Bayern Munich, avant Manchester City, avait aussi un peu subi ces lubies qui vous font échouer tout proche du but sur la scène européenne, David Lortolari.
Bah, c'est une lecture. Moi, j'entends ce que dit Bruno, mais j'ai une autre lecture, moi, peut-être un peu plus brutale. Je vois une vraie opposition entre les deux entraîneurs de cette finale. Un idéologue avec Guardiola, l'idéologue, c'est-à-dire ce jeu qu'on a vu au Barça, qu'il essaye de reproduire d'une manière ou d'une autre avec l'équipe qu'il a actuellement. Un idéologue, donc, qui est dans ce lexique de jeu, dans cette façon de jouer, un jeu quand même beaucoup ras du sol. Effectivement, il n'y a pas d'avancante, il y a peu d'occasions pour les équipes de Guardiola, finalement. Et en face, un entraîneur qui, à mon avis, est plus complet, plus flexible. Tourelle, je suis pas sûr que ça soit sa grande passion de renforcer la défense, de faire ce qu'il a fait avec Chelsea en priorité, parce qu'il fallait redresser aussi Chelsea. Donc il a commencé par la défense à juste titre, certainement, cette saison, et il s'est appuyé là-dessus pour aller jusqu'au bout en Ligue des Champions. Mais plus de flexibilité, plus de capacité à s'adapter peut-être de la part de Tourelle, plus de modernité peut-être. Et moi, je vois cette opposition-là qui est, effectivement n'est pas à l'avantage de Guardiola.
Quelques années avant cette finale, on a un peu lu et relu cette histoire ces derniers jours. Les deux hommes, Guardiola et Tourelle, qui étaient tous deux en Allemagne à l'époque, avaient dîné ensemble à Munich, et le dîner s'était transformé en partie d'échecs improvisés avec les couteaux, les fourchettes, les verres pour faire office de pions et de joueurs. La partie d'échecs grandeur nature samedi, elle a été remportée par Thomas Tourelle, donc vainqueur de la Ligue des Champions, le coach allemand.
Oui, c'est les matchs les plus importants en Europe. C'est un final exceptionnel et on a gagné, c'est incroyable. Très fier, cette troupe est un groupe très très fort. On savait bien que nous ne sommes pas les favoris. C'était difficile dans les premières minutes. Après, à la fin, la première mi-temps, c'était mieux. On a créé quelques contre-attaques très dangereux, mais dans les deuxièmes, c'était un combat très dur et on a essayé tous, voilà.
Multifunktionslenkrad aus Leder. Bordcomputer, deutsche Ingenieurskunst. Deutsche Qualität.
La Deutsche Qualität, alors je commence un peu à la française. La qualité allemande, c'est celle de Thomas Tuchel, donc le coach, et la trajectoire étonnante, hein, viré du PSG à Noël et champion d'Europe au printemps avec Chelsea. C'est aussi Rudiger, le défenseur masqué un peu brutal quand il s'agit d'intervenir sur Kevin De Bruyne. C'est aussi évidemment Kai Havertz, le seul buteur de la rencontre, David Lortolari. Et puis c'est aussi Timo Werner, dont la qualité de finition est à peu près égale à ma qualité de finition, ce qui n'est vraiment pas un compliment.
On va citer personne d'autre.
Le maladroit mais actif Timo Werner. Donc en tout cas des Allemands pour guider quelque part cette équipe de Chelsea, ça a compté dans le succès des Blues.
Oui, et Rudiger a progressé depuis les années passées, on l'a trouvé encore plus fort, là c'est sûr, et il est évidemment le prétendant numéro 1 pour l'Euro qui arrive en défense centrale à l'un des deux postes que va accorder Yogi Löw à ses défenseurs centraux, donc ça c'est un progrès. Havertz, moi j'avais des doutes qu'il quitte si tôt l'Allemagne, les Allemands étaient un peu effrayés de le voir partir si vite du Bayer Leverkusen, il était pressé de faire mieux, de faire plus fort, et effectivement, ne serait-ce qu'au moins sur cette finale, il a prouvé qu'il était quand même un sacré joueur offensif. Werner reste dans ce qu'il sait faire et on peut au moins lui accorder, messieurs.
Du travail.
Bah, là, même sur le but, il ouvre ouais. Un bel espace.
C'est ça, c'est que Timo Werner.
Ça fait pas de lui un grand buteur. Hein, on est
mais
bien
Werner,
d'accord.
Werner, il est meilleur quand il touche pas le ballon. Et il est très bon
oui,
sans ballon.
C'est
en
vrai,
fait,
c'est vrai.
Parce que ses déplacements, ils sont extraordinaires.
On parle quand même d'un numéro 9, hein, placé en numéro 9, qui n'a aucune qualité de numéro 9.
Non, j'exagère à peine. Pour marquer des buts et qui il vendange tellement d'occasions.
La première occasion au début de match, il vendange.
Mais
c'est incroyable. Il tire sur sa.
C'est un problème. Moi je pense sincèrement que c'est un problème de confiance, c'est à dire que c'est pas un problème de le gars il est pas droit devant le but, sinon tu le mettrais pas là, tu le ferais pas jouer. D'abord il est important pour ses déplacements, mais surtout je pense vraiment qu'il a besoin de voilà, alors peut-être le fait de gagner la Ligue des Champions et tout ça, d'avoir la confiance de Tuchel, ça l'a aidé beaucoup aussi, parce que bah, forcément ça l'a remis sur la route, mais il a encore des problèmes de confiance, de certitude dans des actions. L'action qu'il rate, où les appuis ils sont pas forcément bons, parce que oui le ballon est un petit peu entre ses pieds, mais il y a quand même tellement de choses à faire avant de faire cette frappe complètement écrasée sur le gardien. Il y a des choses, tu te dis c'est pas possible quoi.
Bodo.
Non mais c'est un mystère, moi ça reste un mystère, je sais pas quoi en penser. Moi j'ai souvenir du passage de Fernando Torres, qui était un attaquant magnifique à l'Atlético et à Liverpool. Il c'est arrive vrai. À Chelsea, c'est transfert incroyable. Énorme, et le mythe de Torres s'éteint. C'est qu'on ne reconnaît plus l'attaquant, il a l'impression qu'il a deux pieds gauches.
Il n'y avait pas de problème physique à ce moment-là.
Non, c'était le transfert, il ne voulait pas forcément aller à Chelsea, le transfert était onéreux, il avait la pression. Et puis il a perdu son football jusqu'au un match au Camp Nou, où il qualifie Chelsea contre Barcelone au Camp Nou.
Ouais, Drogba n'est pas encore détrôné par Timo Werner dans l'histoire de Chelsea en Ligue des Champions. Alors il paraît, Bruno Constant, qu'il y a des Anglais aussi qui jouent à Chelsea, et non des moindres. Alors Mason Mount, bien sûr, votre petit chouchou. D'autres, on a parlé de Chilwell, on peut parler de Rhys James. Enfin, il y a aussi toute une ribambelle.
J'ai presque envie de vous dire que les meilleurs joueurs sur le terrain de Chelsea étaient anglais.
Il y a
Kanté qui a été exceptionnel, Kai Havertz qui avait jamais marqué en Ligue des Champions, premier but sans finale de Ligue des Champions.
12 matchs, ouais.
Son geste est magnifique. Werner, on en a parlé. Les deux latéraux de Chelsea, ils font un match époustouflant. Rhys James qui a totalement éteint Sterling.
J'ai adoré
on a parlé
James
Ben Chilwell face à Mahrez.
Ouais.
Rhys James, il est une puissance, une vitesse extraordinaire. Et il y a Mason Mount. Et Mason Mount, c'est un peu l'inattendu, parce que c'était un peu soi-disant le fils protégé de Lampard. Il avait connu à Derby County avant de le ramener à Chelsea. Et c'est aujourd'hui le meilleur joueur de Chelsea cette saison. Il est d'une régularité exceptionnelle. Il est décisif sur le but. Il a cette inspiration de la passe dans l'espace qui est magnifique. Et voilà, et c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas. Alors oui, il n'a pas coûté 40, 50, 60 millions parce qu'il était formé à l'académie. Et que c'est aussi la preuve de la très bonne académie de Chelsea, la formation. Et là, il postule pour être titulaire avec l'équipe d'Angleterre à l'Euro. c'est un joueur fantastique.
Allez, un peu de musique, il nous reste environ 10 minutes et vous avez bien mérité de danser, messieurs.
Je survivrai, je survivrai, je survivrai. J'ai tellement sur terre de choses à faire que je préfère tenir. N'essaie pas de m'attendrir, n'essaie pas de revenir. Je survivrai sans toi.
Hommage à une grande dame des nuits parisiennes, Régine, adaptation oui, du How Will Survive de Gloria Gaynor.
Et... donc vous avez commencé l'émission en citant du Johnny Hallyday, et vous nous mettez du Régine.
Mais c'est une émission à forte valeur ajoutée sur le plan culturel. Les nuits parisiennes, et peut-être que Thomas Tuchel, Unai Emery, Cavani, Thiago Silva se sont réunis régulièrement il y a quelques années chez Régine pour danser jusqu'au bout de la nuit. Tous ces anciens parisiens
c'était
qui
ça,
ont
c'est ça la liaison
incroyable, incroyable de transition, incroyable de transition.
C'est aussi, là, c'est aussi, limpide, loin, aussi limpide qu'une frappe de Timo Werner.
En tout cas, pour les supporters parisiens, quelle semaine, quelle séquence, mon cher Eric Rabessandratana. Cavani, non conservé l'été dernier, qui marque avec Manchester United en finale de la Ligue Europa. Mais la Ligue Europa, elle est remportée par Unai Emery, entraîneur parisien non conservé en 2018. Et puis la finale de la Ligue des Champions, remportée par un entraîneur parisien non conservé Noël dernier, avec également comme défenseur un capitaine non conservé par Paris l'été dernier, à savoir Thiago Silva.
Ah, c'est incroyable. C'est le moment le plus important de ma carrière. Mais c'est le moment aussi d'avoir la reconnaissance de tout ce que Paris l'a fait pour moi. Mais on n'a pas réussi à gagner avec Paris. J'espère que pour Paris pour arriver à ce moment. Chaque fois que Paris est éliminé, tous les gens, ils ont tout de suite trouvé un coupable. Et normalement, c'était toujours moi. C'était dommage pour ça, parce que j'ai tout fait pour cette équipe. J'ai essayé de tout donner. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à rapporter cette coupe pour Paris. J'espère que ça peut arriver, parce que j'ai laissé beaucoup des amis là-bas et dommage pour la saison qu'ils ont fait, mais je vais rester toujours rouge bleu.
Voilà, Thiago Silva, au micro de nos confrères de RMC. Vous voulez éviter le sujet, Eric Rabessandratana.
Très bien, non, non, très
là, vous
bien.
Avez bavardé pendant le son
là,
de Thiago Silva,
là,
qui était très émouvant à chaque fois qu'on était éliminé
j'ai
avec
pleuré.
Paris. C'était ma faute, mais je leur souhaite de gagner vrai. Cette Ligue des Champions. Tout un symbole quand même, les ex-bannis du PSG qui rayonnent dans les finales européennes en quelques jours. L'ancien entraîneur, l'ancien capitaine qui soulève la Ligue des Champions tant convoitée. C'est anecdotique.
Ouais,
ou
c'est pas, il y a pas forcément un lien direct, mais ça prouve déjà que Paris a su faire des bons choix quand il les avait dans l'équipe, ça c'est sûr. Donc quand tu as des joueurs comme ça de cette qualité, forcément tu te dis que voilà. Pour Tuchel, faut quand même reconnaître que je pense qu'il n'aurait pas été capable de faire ça à Paris parce qu'il n'avait pas les joueurs pour faire ce qu'il a fait à Chelsea. Donc ça c'est une réalité. Donc après le reste, Thiago Silva, je suis entièrement d'accord. Moi, je l'aurais gardé tous les jours. Thiago Silva, surtout quand tu gardes derrière.
Il a pas joué la finale en intégralité.
Mais
pour une fois, les larmes, entre guillemets, n'étaient pas dues à l'émotivité. Ouais. Elles étaient dues au fait qu'il est allé au charbon.
Il a dit une chose importante dans son interview après match, où il dit « J'avais tellement de pression à Paris, et je pense que le drame de Paris à l'heure actuelle, c'est ça. C'est d'avoir mis tellement de pression sur les joueurs. » Peu importe le niveau des joueurs, parce que ces joueurs-là, ils doivent supporter la pression, normalement. Mmh. Tu dois, ça ne doit pas t'empêcher de... Mais il n'empêche qu'il y a un côté émotionnel qui intervient à un moment donné et qui, quand tu vois Kimpembe qui pète un plomb pour mettre un coup de savate à un joueur de Manchester City, Di Maria qui craque pour marcher sur le... Toutes ces choses-là, c'est des émotions qui ne sont pas contrôlées par rapport aux joueurs. Et pourtant, c'est des joueurs d'expérience. On n'a que des internationaux à Paris, mais... Voilà, ça montre aussi que, quelque part, il y a un côté émotionnel qui est important.
Et je parlais d'Unai Emery, donc l'entraîneur espagnol qui a gagné la Ligue Europa avec Villarreal, un club de dimension moindre, plus familiale. Je parlais de Thomas Tuchel, donc qui gagne la Ligue des Champions avec Chelsea, et peut-être un effectif où on n'est pas obligé de se reposer sur deux stars un peu surdimensionnées, c'est plus aussi. Homogène. On a Thiago Silva qui semble effectivement délesté d'une certaine pression. On a quand même l'impression qu'en creux, à travers ses succès d'anciens parisiens, se dessine une... politique, un manque de cohérence, ou en tout cas des problèmes dans le projet global parisien. Est-ce que c'est un peu surinterprété ou est-ce que c'est valable, Bruno Constant?
Ben non, mais ça renvoie forcément, entre guillemets, l'échec du PSG, parce que pour moi, celui-ci en finale des champions, c'est pas un échec.
Ça, c'était l'année dernière et 2000
ouais, mais
cette année.
Voilà, et je pense aussi que Thomas Tuchel s'est servi de son expérience au PSG, de cette finale avec le PSG pour gagner la finale avec Chelsea, parce que c'est important aussi. Mais voilà, après il y a eu, moi je, il y a eu des critiques sur Tuchel quand il était au PSG qui étaient justes quoi. À un moment donné, il faisait un peu n'importe quoi. On lui donne une nouvelle sentinelle, il la met en défense centrale.
Tous ces hommes dont j'ai parlé, ils étaient critiquables dans leur dernière séquence au PSG. Le problème, c'est la faute du PSG ou des joueurs et des entraîneurs.
Thiago Silva, à un moment donné, on expliquait que c'était lui qui refusait, qui faisait reculer tout le bloc, et que le PSG perdait parce qu'il faisait.
N'était pas un leader. Voilà.
Sauf que lui, il arrive à Chelsea. L'équipe de Chelsea joue pas bas. Alors, on peut regarder sur les positions moyennes sur les matchs, mais c'est plutôt haut. C'est une équipe qui va chercher très haut.
Et ça pose pas de problème. 30 ou 35 mètres par rapport à Lampard. Donc effectivement, il joue pas bas.
Thiago Silva, c'est le meilleur défenseur qu'il ait jamais eu à Paris. Ça, c'est sûr et certain.
Donc tu meilleur du monde.
C'est sûr. Il y a eu du bon quand même.
Et franchement, il y a eu du bon.
Petit droit de réponse. On parlait de la cohérence du projet parisien. Son architecte dans le passé et actuellement, c'est Leonardo, le directeur sportif brésilien, qui s'est exprimé sur les succès de ses anciens collègues au micro de nos confrères de Canal+ hier.
Moi, je suis content de voir un entraîneur qui est passé pour le Paris Saint-Germain. Il va là-bas. C'est sûr que le Paris Saint-Germain a fait un choix à son temps bon. Il est un entraîneur de haut niveau. Après, ce sont des cycles dans un club qui passe. Thiago Silva aussi, c'est très bien de voir. Lui, même s'il s'est blessé. Et bon, maintenant, ça, c'est le football.
Bon. Il relativise Leonardo.
Il est obligé.
La cerise sur le gâteau quand même, c'est qu'on annonce depuis plusieurs jours que Pochettino, donc arrivé il y a 6 mois pour remplacer Tourelle, veut s'en aller du PSG. Il ne serait pas très content de sa situation et notamment de ses relations avec Leonardo. Il voudrait revenir à Tottenham et d'aucuns ironisent sur le fait que parce qu'il est passé par le PSG, il devrait assez logiquement gagner une Ligue des Champions. Pas mal de gens sur Twitter, Facebook, les réseaux sociaux. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau là pour le
ouais,
PSG.
Ouais, alors bon,
gagnent et puis l'actuel veut s'en aller parce que.
Ça montre aussi que voilà, il y a certainement, il s'est aussi rendu compte peut-être que sur les 6 mois qui se sont passés, qu'il y a un problème de mentalité au Paris Saint-Germain. C'est aussi ça qui a fait que peut-être les entraîneurs précédents n'ont pas réussi à Paris. C'est que
Eric, la mentalité, il faut l'incarner.
Je suis d'accord. C'est-à-dire que la responsabilité est partagée toujours. C'est-à-dire que l'entraîneur arrive avec sa philosophie et la philosophie doit être suivie par les joueurs. Si les joueurs n'adhèrent pas au message et au côté collectif. Là, tu es responsable aussi en tant qu'entraîneur. C'est pour ça que c'est trop facile de dire « voilà, je suis passé à Paris, ça n'a pas marché, je vais à Chelsea, je gagne la Ligue des Champions ». Oui, parce qu'il y a d'autres joueurs, il y a une autre philosophie et parce que tu as réussi à faire adhérer à des joueurs qui ont peut-être moins de notoriété que Neymar, Mbappé, de travailler un peu plus. Et derrière, voilà, donc toutes ces choses-là rentrent aussi en compte dans le bilan.
Alex Ferguson avait dit quelque chose de très juste. Quand un joueur de l'effectif, du vestiaire, devient plus important que l'entraîneur,
complètement
c'est
d'accord.
Fini.
Ça, c'est
et
sûr.
À chaque fois que c'est arrivé à Manchester United,
là à Paris vous en avez deux. Hein,
non, mais à chaque fois que c'est arrivé à United, Ferguson se débrouillait pour mettre le joueur dehors. C'était le cas avec Beckham, c'était le cas avec Roy Keane, avec Van Nistelrooy. Et pour moi c'est le succès. Et pour moi le plus bel exemple c'est le Bayern Munich parce que il y a une structure, on parle souvent d'institution.
Il y a un directeur sportif qui bordure les joueurs aussi au-dessus de l'entraîneur. Mais au Bayern.
Là tu dis deux joueurs. Non, il y en a qu'un maintenant parce que Mbappé est entré dans l'esprit collectif. Et ses performances, elles sont à travers l'esprit collectif et plus du tout à travers ses
performances. Brésilien. Un petit rappel, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ça aussi, ça fait partie de la qualité allemande. Les 3 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions sont 3 coachs allemands, Jürgen Klopp, Hansi Flick et puis Thomas Tuchel avec Chelsea. Ainsi, c'est achevé la finale de la Ligue des Champions sur le succès 1-0 des Blues contre City. Ainsi s'achève Radio Foot ce lundi. Merci et excellente soirée sur RFI. On se revoit demain.
Autour de la question.